bon, allons-y, c'est le moment de l'agiter.
Oh, j'avais pas vu l'heure.
Et c'est sur l'autre radio. Vous et moi, on est sensibles à l'aventure, aux histoires, aux vagues d'émotions qui souvent nous emmènent dans un ailleurs que l'on n'aurait jamais projeté seul, je le sais. Mais alors j'ai envie de vous demander où est-ce que ces aventures se trouvent encore dans nos journées bien cadrées, trop cadrées, dans ces directions que l'on prend, qui ont été tracées par d'autres. À quel moment on re-questionne tout ça? À quel moment on re-questionne tous nos gestes intégrés, nos choix qui n'en sont peut-être pas ou peut-être plus? Ce matin, j'étais en retard, je vous le dis. J'ai eu un petit moment d'arrêt en buvant mon café. Je me suis demandé ce que ce café avait traversé pour arriver jusqu'à moi. Et je me suis dit que ce que l'on mange et que ce que l'on boit, c'est en soi déjà un voyage. C'est finalement un lien avec ailleurs ou même avec des terres voisines, avec des mains qui cultivent des histoires sur lesquelles je ne me penche pas. Alors j'ai continué de me poser des questions. Pourquoi je n'ai pas assez d'étonnement à cet endroit-là? Et dites-moi, amis auditeuristes, si vous l'avez plus que moi, parce que je n'en suis pas sûre. Dans un monde qui vacille entre crise et espoir, je vous propose que l'on fasse quelque chose ensemble aujourd'hui. On va regarder notre assiette et lui poser des questions. Oh, et puis ça tombe bien puisque je ne suis pas du tout seule aujourd'hui en studio pour le faire avec vous. À mes côtés se trouve Anne-Marie Bourget de l'association Les Trois Mondes qui coordonne en Mayenne le festival alimentaire qui a commencé le 15 octobre et qui s'étend jusqu'au 30 novembre. Anne-Marie, bonjour, merci d'être avec moi aujourd'hui.
Bonjour.
Je crois qu'on peut dire que ce festival, c'est un bon moment et une belle manière de réfléchir à tout ça, puisque le festival propose particulièrement de le faire au cinéma. Alors forcément, ici, ça nous plaît. Et donc, on en parle dans quelques instants. Ensuite, on quitte un peu la Mayenne pour aller à Angers avec notre reportage Pensée locale de la semaine. Et si on se rend là-bas, c'est pour découvrir WET, qui est un nouveau lieu culturel à Angers et qui met en valeur la création locale. Voilà, ce sont les copains de Radio G qui ont tendu leur micro à Timothée Barini, cofondateur de WET, avec Anne Bourreau. Voilà, l'émission se terminera exceptionnellement au téléphone avec notre chroniqueuse Maître Mignard qui, entre deux rendez-vous, prend le temps de nous faire part de son expertise, toujours avec ce ton qu'on lui connaît bien et qu'on aime. Voilà, c'est le programme du jour et c'est pas mal. Bienvenue à vous, amis auditeuristes dans l'agité du local. Je suis Margot et je vous propose de rester un peu avec nous pour ce petit moment de la journée, ce rendez-vous que l'on se donne. Et alors pour ça, je vous le disais, je suis en bonne compagnie. Je suis avec Anne-Marie Bourget, membre de l'association Les Trois Mondes. Et aujourd'hui, on va parler ensemble du festival alimentaire qui a lieu en Mayenne du 15 octobre jusqu'au 30 novembre. Anne-Marie, est-ce que pour commencer, on peut rappeler ce qu'est le festival alimentaire?
Alors le festival alimentaire, il existe depuis 2007 et c'est un festival international qui s'intéresse au sujet de l'alimentation avec l'idée de promouvoir une alimentation durable et solidaire. Mmh. Et il est accompagné en Mayenne par l'association Les Trois Mondes. Cette association, il y a un lieu où on peut se documenter. Mmh. On peut avoir des informations. Il y a également beaucoup d'animations qui tournent autour de la réflexion pour promouvoir un monde solidaire, le respect des droits humains et l'environnement. Enfin, tout ça va ensemble, en fait. Et là, en fait, cette année, le Festival alimentaire fête ses 10 ans. Et c'est toujours, en fait, du 15 au 30, si je ne dis pas de bêtises, oui, c'est ça, oui. 15 octobre au 30 novembre. C'est ça. Et l'idée, c'est de présenter la plupart du temps des films documentaires, mais il y a aussi une sélection de films de fiction qui tournent tous autour de cette thématique de l'alimentation.
Et alors, c'est un festival qui s'installe un peu partout dans le département, en tout cas qui touche beaucoup de cinéma. Je pense au Bourgneuf, à Goron, Laval, Mayenne, Château-Gontier, Évron, Bonchamp, Saint-Cyr-le-Gravelet et La Brulatte. Donc en fait, peu importe où on se trouve en Mayenne, on peut s'intéresser à cette programmation et regarder un peu ce qui se passe pas loin de chez nous, principalement au cinéma, mais il y a aussi des rencontres plus sous forme de conférences. Il y a aussi du théâtre. Là, je pense à Loiron avec un temps théâtral autour des femmes dans l'agriculture. L'objectif du festival, c'est de nous amener à réfléchir, mais ce qui est important de dire, je pense, c'est que l'idée n'est pas de nous miner sur ces thématiques qui sont un peu anxiogènes actuellement. L'idée, c'est d'avoir de l'élan ensemble et d'avoir un temps d'échange, et ça, c'est quelque chose qui est particulièrement important pour vous, Anne-Marie. Vous me l'avez dit il y a quelques instants.
En fait, c'est vrai que quand on regarde la programmation, parfois, certains documentaires, on ressort, on est un petit peu plombé, hein, faut reconnaître, parce que quand on parle de ce qui se passe dans les océans aujourd'hui, quand on parle de la manière dont on exploite un certain nombre de terres et on les détruit d'une certaine manière, c'est pas toujours très joyeux. clairement. Mais ce qui est vraiment intéressant, et là je vais prendre l'exemple du préambule, il y a eu un film en fait qui a été présenté à l'avant-scène le 8 octobre, le mardi 8 octobre, qui s'appelle Toxicity. Et c'est un superbe documentaire sur un complexe pétrochimique qui se trouve en Sicile. Et c'est vrai que le constat n'est pas gai, hein, la suite du documentaire, le documentariste était là. Mais par contre, ce qui se passe, c'est que ça crée des échanges. La salle était vraiment pleine ce soir-là. Et on a eu des échanges vraiment très intéressants avec le documentariste, qui nous dit lui-même que son film, maintenant, est vraiment diffusé de manière assez large. Et c'est tout. C'est un moyen, le cinéma, là, de créer d'élever la conscience des gens sur ces sujets-là. Et puis, c'est surtout un lieu de rencontre. C'est-à-dire qu'on voit le film, mais ensuite, il y a aussi ces moments d'échange qui sont extrêmement précieux.
Et alors, on peut poser nos questions, peu importe où on se trouve, sur de connaissances, on peut le dire, sur ces sujets-là. Finalement, on peut arriver un peu dans le flou et se dire, toutes les questions sont bonnes à poser. Il y a déjà des premières réponses qui se passent dans la salle via le grand écran. Mais ensemble, ensuite, il y a cet échange avec différents experts ou même des gens des films.
Oui, donc pour chacun des films documentaires, en fait, dans la programmation, quels que soient les lieux, généralement, il y a des intervenants. Donc, il y a forcément un temps d'échange après le film. Mmh. Et c'est vraiment cet aspect-là qui est important parce que c'est aussi créer du lien. Puisque les trois mondes et puis ce type d'association, il y a bien cette idée de promouvoir un monde solidaire. Mmh. Et je pense qu'on ne peut pas imaginer notre monde actuellement sans qu'il y ait une conjonction des forces et des convictions de chacun, en fait.
Puis voir localement un petit peu l'occasion de se croiser, de voir les acteurs locaux, voilà, qu'est-ce qui est mis en place et qu'est-ce qui, à notre échelle, est faisable aussi face à ce...
Oui, parce que ça reste... effectivement, on est sur des enjeux qui nous dépassent largement, hein, parce que c'est au niveau mondial. Mais on en revient toujours avec les échanges à nous, qu'est-ce qu'on peut faire sur place pour... ne serait-ce qu'informer ou pour qu'on retrouve un peu d'espoir parce qu'on se retrouve ensemble sur ces thématiques, en fait.
Ce qu'on peut dire également, c'est qu'il y a une programmation jeune public.
Oui. On s'intéresse aussi aux enfants. Donc, il y a toujours des moments prévus. Donc là, dans le programme, il y a quelque chose qui s'appelle l'Arbre à Conte, qui est le dimanche 10 novembre. Donc ça, ce sera à l'avant-scène. Et on essaie vraiment de sensibiliser les jeunes. Il y a un autre moment où c'est un autre film d'animation qui sera diffusé dans plusieurs endroits, à plusieurs moments. Et donc, ça touche aussi nos enfants, parce que c'est eux-mêmes qu'il faut aussi sensibiliser assez tôt, en fait.
Et il y a toujours ces questions de se dire comment on en parle, justement, à des jeunes qui arrivent. Anne-Marie, je sais que vous travaillez avec des jeunes, particulièrement des lycéens. C'est une génération qu'on accable un petit peu, des fois, quant à leur engagement. Mais je me dis aussi que, concrètement, c'est pas évident d'arriver, de grandir dans un monde où on a très peu de projections d'avenir. Se construire là-dedans, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous ressentez?
Moi, c'est un sujet... Enfin, moi, j'ai toujours parlé d'environnement parce que c'est un sujet qui me tient à cœur, vraiment. Et je reconnais là que depuis quelques années, il y a eu la période où il y a eu les marches pour le climat qui avaient vraiment mobilisé la jeunesse. C'est un peu retombé. Et je trouve très difficile aujourd'hui de trouver l'angle d'approche qui ne soit pas... trop démoralisant, parce qu'en même temps, notre but, évidemment, des enseignants, c'est de faire connaître et que tout le monde ait conscience de ce qui se passe. Mais parfois, on n'a juste plus envie de savoir. Enfin, je crois que tous, on a des moments où on se dit « là, je vais éteindre les infos parce que je ne veux plus savoir ce qui se passe ». Donc, il faut arriver à trouver ça, à la fois ce « non, on va rester les yeux ouverts ». Mais il ne faut pas qu'on ait trop mal. Et donc, il faut qu'on ait des moments d'espoir. Et pour moi, l'espoir, en fait, c'est quand on peut montrer des personnes qui continuent à lutter, qui continuent à faire des gestes qui vont dans le bon sens, c'est dans le sens du collectif, dans le sens de se dire on ne va pas baisser les bras, même si c'est des toutes petites choses. Et je dirais que moi, dans mon métier d'enseignant, c'est un petit peu ça. C'est le petit travail du colibri là, qui répond à ces petits messages. C'est essayer de faire comprendre qu'il y a moyen de changer les choses, même si parfois on a du mal à y croire. Mais si, le collectif peut vraiment permettre de changer les choses.
L'année dernière, il y avait eu un film qui avait touché, je crois, particulièrement les jeunes. C'était Les Algues Vertes. Oui. Vous nous en aviez parlé.
Oui. Donc, Les Algues Vertes, en fait, l'an dernier, c'était donc sur tous ces problèmes de toxicité sur les plages bretonnes. Et en fait, là, on s'est décidé à le reprogrammer. Donc, par exemple, au lycée Ambroise-Paré, on va de nouveau emmener toutes les classes de seconde voir ce film. Et à l'issue du film, en fait, comme on avait fait l'an dernier, on va faire des petits ateliers d'échange avec des gens, des locaux un petit peu qui sont dans le domaine agricole ou autre, qui avaient beaucoup aimé venir l'an dernier. Ils avaient, eux-mêmes étaient très contents de ces échanges. Donc on renouvelle ça parce que ça avait bien fonctionné. Et on avait organisé en fait des petits débats où les élèves prenaient des rôles. Donc ils se retrouvaient dans le rôle d'un agriculteur conventionnel, d'un agriculteur au contraire bio, de médecin, de, enfin tous les rôles possibles et imaginables autour du sujet. Et franchement, ils avaient bien joué le jeu. Et on était très contents parce que ça les faisait sortir un peu de leur petit confort et puis d'attendre simplement, on voit un film et puis il ne se passait pas forcément grand-chose.
Tous ces ateliers participatifs, un peu sous forme de jeu de rôle finalement, oui. Ça amène à se poser des questions. Quels seraient les arguments et comment est-ce qu'on crée un débat et comment est-ce qu'on contre certains arguments quand on se met dans les différentes positions, c'est intéressant.
Oui, donc voilà, on essaie, enfin c'est d'amener un peu les jeunes aussi à la réflexion à travers les films qui sont projetés lors du festival.
Il y a une sélection officielle nationale et il y a une sélection locale.
Oui.
Donc là, c'est vraiment les trois mondes qui sélectionnent.
Oui. C'est en fait, il y a une conjonction de... On choisit les documentaires ensemble. Donc donc moi, je suis enseignante. On a des personnes qui travaillent à l'avant-scène. On a Michael Lepage qui est agriculteur. On a d'autres intervenants qui sont dans différents domaines. Donc on fait nos sélections et après, souvent sur les suggestions de Karen Raymond de l'avant-scène, on a d'autres films qui sont proposés. Et là, je peux parler d'un en particulier parce que je l'ai vu. C'est le film qui s'appelle Vin Dieu qui passera le dimanche 10 novembre. Et c'est un drame, donc c'est de Louise Courvoisier. Il est de 2024 et c'est un film de fiction qui montre la ruralité telle qu'on la montre rarement. Donc c'est... Bon, je ne vais pas raconter l'histoire, vous regarderez sur le programme, mais on est vraiment dans le monde de la ruralité avec des jeunes et les problèmes qu'ils rencontrent actuellement dans... Voilà, si on tient une exploitation agricole, comment on fait ? Et à la fois, il y a aussi quelque chose d'extrêmement humain parce que c'est juste aussi un peu un film d'initiation parce que le personnage principal, il va grandir un peu plus vite que prévu. Et il y a aussi une relation amoureuse à un moment donné. Et tout ça fait un film très riche humainement et qui pose des questions sur le monde agricole d'aujourd'hui.
Donc là, c'est un film de fiction, vous l'avez dit, qui sera projeté le dimanche 10 novembre à l'avant-scène, donc à Laval, à 18h15. Et alors, on peut le dire, ce film a reçu le grand prix du Festival du film francophone à Angoulême en 2024 et fait partie de la sélection de Cannes 2024. Donc effectivement, la fiction aussi peut raconter et se placer un peu dans ces sujets et ces questionnements. Mais principalement, on a dans cette programmation du documentaire et il y a aussi une conférence sur la gestion de l'eau.
Oui,
l'eau, donc c'est bien commun.
Ouais, cette conférence aura lieu le mercredi 27 novembre, donc au lycée à l'Agricampus en fait. C'est à 14h30, il faut demander, enfin réserver sa place parce que l'amphithéâtre il n'est pas si grand que ça. Et ce sera une conférence tenue par Swadik Manak, qui est prof de SES mais qui fait aussi pas mal de conférences. Et voilà, donc si vous êtes intéressé, voilà, regardez le programme et puis venez voir.
Swazik, que l'on connaît bien dans cette émission, qui est
voilà.
Chroniqueuse, qui a une chronique qui va revenir très bientôt. Hein. D'ailleurs, Amélie Editoris, son retour est prévu pour le 30 octobre. Donc voilà, bah écoutez, est-ce qu'il y a un autre temps, puisqu'on a pu parler du fait qu'il y ait effectivement différentes projections donc à Mayenne, au Bourgneuf, à Laval. Est-ce qu'il y aurait un autre temps, peut-être sur une thématique qui vous tient particulièrement à cœur? On voit que finalement, la question de l'alimentation, c'est questionner nos propres choix, c'est aussi regarder ce qui se passe ailleurs et quel impact on a ailleurs. Parce que la question de l'alimentation, c'est effectivement comment est-ce que l'on consomme, mais ce que l'on consomme, quel impact ça a aussi pour l'humain dans d'autres pays, puisque toutes les règles ne sont pas partout pareilles. Et je pense que le festival aussi questionne ça et a à cœur de poser ces questions-là. Est-ce qu'il y a un film peut-être qui vous interpelle directement quand je vous parle de ça?
Là, moi, j'étais... Il y a tout ce qui concerne... Je pense pas à un film en particulier. Là, j'étais en train de regarder la... Il y a une rencontre à l'avant-scène aussi, on est le mardi 19 novembre, avec Larissa Miles-Bombardi sur les effets des pesticides sur les populations autochtones au Brésil. Et moi, ça me refait penser à ce que vous disiez effectivement, notre alimentation est totalement internationale et votre café du matin, il vient de loin. Et comment il a poussé et qu'est-ce qu'on a mis pour faire pousser et quelles sont les conséquences en fait sur les gens qui cultivent aussi ces terres. Donc c'est une thématique qui est forcément présente et là donc il y a cette conférence elle est présente, je dirais en fait dans quasiment tous les films on a ce questionnement sur d'où vient ce qui est dans notre assiette et quelles sont les conséquences pour les gens qui ont fait pousser ce qu'on va manger.
Et l'idée n'est pas de culpabiliser, non, c'est vrai qu'on a des fois un peu on peut entendre des choses comme ça, je fais bien ce que je peux avec ce que j'ai. Il faut aussi avoir conscience, effectivement, en période de crise, la crise économique influence aussi nos choix. Mais il s'agit plus de se poser des questions pour se frayer un chemin dans toutes ces contraintes, ces difficultés que l'on ressent tous au quotidien. J'ai envie de préciser, effectivement, Larissa Miles-Bombardi, elle est donc chercheuse et l'auteur de Pesticides, un colonialisme chimique. Elle viendra, comme vous l'avez dit, le mardi 19 novembre à l'Avant-Scène. L'Avant-Scène avec beaucoup de dates prévues. C'est à 20h, d'ailleurs, cette conférence, un temps gratuit. Il faut également s'inscrire et réserver.
En parallèle avec en fait, cette conférence, il y aura le film documentaire Pesticides, l'hypocrisie européenne qui passe le mercredi 13 novembre. On est sur la même thématique, comment on fait pousser à l'aide de pesticides qui sont vraiment très 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 nuisibles pour notre environnement et pour nous-mêmes.
On se pose la question des fois de comment agir nous au quotidien, ça dépend aussi de nos choix, mais ça peut être aussi un engagement dans des associations comme vous le faites, vous Anne-Marie. C'est aussi quelque chose qui au quotidien vous apporte quelque chose d'être impliquée dans cette association Les Trois Mondes.
Je dirais que moi en fait depuis que j'ai rejoint en fait le Festival Alimentaire parce que je m'étais renseignée, je me suis dit ça marche comment ? Et donc j'ai rencontré les personnes qui mènent un peu Les Trois Mondes, qui sont à l'origine de tout ça. À la fois, quand on fait la sélection, on est tous parfois un peu déprimés sur les thématiques, mais à la fois, on est ensemble. Et du coup, on en parle. Moi, ça me donne un lieu où je retrouve des personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt, les mêmes préoccupations que moi. Et ça, c'est extrêmement important. Parce que parfois, on peut se dire chez soi tout seul, je fais quoi ? Moi, je suis conscient de ce qui se passe, mais j'en fais quoi au final ? Et en fait, d'aller dans des associations, ça permet de se sentir tellement moins seul. C'est vraiment ça pour moi, je rejoins des personnes qui... Et quand maintenant on se voit dans d'autres lieux, on sait qu'on a ce lien sur cette thématique et que c'est vraiment important. Ça fait du lien, tout simplement, ça fait du lien.
Et pourquoi pas, même en tant que jeune, des fois, effectivement, on ne sait pas trop comment aujourd'hui s'engager. Beaucoup de choses se passent via Internet, mais c'est vrai que la rencontre, rien ne... Donc vous appelez éventuellement les jeunes aussi à vous rejoindre dans l'association, vous êtes totalement ouvert.
Si vous avez des questions, vous pouvez essayer de contacter Les Trois Mondes. Et je pense que ce serait vraiment extraordinaire que des jeunes aussi se disent « moi j'ai quelque chose à faire là ».
Michael Lepage, on avait pu échanger avec lui l'année dernière sur ce festival. Il est très impliqué sur le territoire pour toutes ces questions. On a toujours plaisir de l'accueillir dans cette émission, Il a laissé un petit mot sur un peu les valeurs que porte le festival et ce qui compte finalement pour lui.
Donc je vais vous le lire. Alors aujourd'hui, en fait, Michael, il recevait des classes dans sa ferme à Changer. Et il m'a envoyé un petit mot en me disant, moi, si j'avais quelque chose à dire, c'est ça que je dirais. Donc je vais vous le lire.
On vous écoute.
Le prendre soin de la terre passera inévitablement par le prendre soin de l'humanité. Et pour cela, il faut veiller impérieusement à sa reconnexion au monde réel, au monde des vivants, à la nécessaire coexistence avec tous les milieux naturels. Leur dégradation permanente provoque une telle pression de charge que nous accentuons les inégalités, l'asservissement de beaucoup au profit de quelques-uns, et que finalement nous mettons en péril notre propre espèce. Moi, ça me fait penser au discours de Greta Thunberg, le tout premier qui nous avait tellement marqué. Ensuite, cette reconnexion au vivant nécessite des connaissances, de la tolérance, de l'humilité, et de nous remettre rapidement à notre place, c'est-à-dire des petits primates dépendant de chaînes qu'il est indispensable de protéger. Ivan Illich écrivait « Notre civilisation croit savoir ce qu'elle gagne avec les outils, mais elle ne sait pas ce qu'elle perd en perdant l'intelligence intuitive des humains. Tentons vite de redevenir des êtres doués d'intelligence, connectés aux réalités du monde vivant, dont nous sommes tributaires. »
Bien, merci beaucoup et merci à Michaël Lepage que l'on salue évidemment et qu'on a toujours plaisir à avoir son expertise de terrain. Il a une vraie capacité à expliquer. Quand on est en dehors des fois de toutes ces questions-là et du terrain, c'est pas toujours évident de comprendre et il a cette capacité à transmettre. Et donc on le salue, on le remercie pour ce beau message. Je rappelle que le festival a lieu du 15 octobre jusqu'au 30 novembre. Il y a énormément de rendez-vous de programmés un petit peu partout dans le département. C'est une programmation qui est riche, qui propose des échanges dans la bienveillance et avec de l'espoir malgré tout, Anne-Marie. On insiste là-dessus. Oui. Merci beaucoup, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. L'ensemble de la programmation est disponible sur le site du CIVAM Bio, peut-être à d'autres endroits également.
Sur internet, vous trouverez le programme. Il y a des petits dépliants qui sont un peu partout dans la Vallée et en Mayenne, pense. Et vous avez largement de quoi trouver de l'information sur le festival.
Ne pas hésiter à être curieux finalement sur ces rendez-vous. Merci beaucoup Anne-Marie d'avoir été avec nous et de nous avoir partagé également votre expérience. Amis auditeurs, on se retrouve dans quelques instants pour notre reportage Pensée locale de la semaine. Avant ça, je vous propose une pause musicale et j'ai envie d'écouter avec vous Clio, La Belle Affaire. C'est parti.
Ce soir, j'ai la dalle, je veux manger les étoiles. Je descends dansant, je me fous des passants. Tu vois, j'embrasse tous les garçons qui passent. Ce soir, tu rigoles, c'est moi qui conduis la bagnole. Ce soir, je sais tout faire, oh, j'ai tout fait hier. Ce soir, je respire, ce soir, j'ai le sourire. Tu vois, c'est beau, c'est bon, ça va ma nuit sans toi, ça va ma nuit sans toi. Tu vois, c'est beau, c'est bon, ça va ma nuit sans toi, ça va ma nuit sans toi. Ça va. Toi viens rire à mes blagues. Je me fais des copines, des Sophie, des Justine. Super bien dans mes pompes, je cause plus fort que tout le monde. Ce soir t'inquiète, même pas mal à la tête. Même pas mal au cœur, même pas mal au cœur. Tu vois, tu me plaques, mais quoi? Moi, je m'éclate. Tu vois, c'est beau, ça va ma nuit sans toi, ça va ma nuit sans toi. Tu vois, c'est bon, ça va ma nuit sans toi, ça va ma nuit sans toi. Ça va. Sans toi. Ça va. Sans toi. Ce soir, c'est super. Il est parti, la belle affaire. Moi, je bois des verres, et des verres, et des verres. Je sais pas où il dort, moi, j'enflamme le dance floor. Tu vois, c'est bon, ça va ma vie sans toi, ça va ma vie sans toi. Tu vois, c'est bon, ça va ma vie sans toi, ça va ma vie sans toi. Tu vois, c'est bon, ça va ma vie sans toi, ça va ma vie sans toi. C'est bon, ça va ma vie sans toi, ça va ma vie sans toi. Ça va. Sans toi. Ça va. Sans toi.
Un nouveau lieu culturel à Angers, il s'agit de WET, qui met en valeur la création locale. On y trouve notamment une boutique de créateurs et de créatrices, un café, une salle où s'organisent des ateliers, des rencontres, des expositions et des concerts, et même un petit jardin. WET signifie blé en anglais et renvoie au moment de l'humanité où la culture de cette céréale a fédéré les hommes et les femmes autour d'un sens commun, ce qui fait que WET se qualifie avec un brin d'humour d'épicentre culturel à Angers. Voilà, c'est notre reportage Pensée locale qui est signé Pierre-Benoît Leclerc de Radio G. Il a tendu son micro à Timothée Barigny, cofondateur de WET, avec Anne Bourreau. Écoutez.
Pensée locale, un enjeu de société. Une émission des radios associatives des Pays de la Loire.
Comment ?
Il y a plein de passants, effectivement.
Oui, bah oui, c'est vraiment une rue passante. Franchis donc la porte. Moi, je suis Timothée, je suis Lillois d'origine, et je suis arrivé à Angers en 2020 pour rejoindre l'équipe de direction de Thomas Joly au Quai. À l'issue de cette expérience, et ben, aussi chauvin soit jeu avec Lille, j'ai décidé de rester à Angers parce que je fantasmais le projet que je vous présente là depuis très très longtemps et que j'ai trouvé qu'Angers était le terrain parfait pour initier ça.
Au 18 rue du Hara, à Angers, WIT se qualifie d'épicentre culturel. Un jeu de mots et un parallèle entre culture alimentaire et culture artistique que nous détaille Timothée Barini, l'un des deux associés avec Anne Bourreau du lieu.
WIT, en anglais, ça veut dire blé. Le blé, la céréale. Que les humains ont vraiment commencé à exploiter quand ils ont cessé d'être nomades. Et il y avait quelque chose de très collectif dans l'utilisation de cette céréale pour nourrir le collectif. En dehors de ça, il y a aussi toute cette dimension, on va dire, de la graine qui passe des ténèbres à la lumière, comme je dis dans le dossier de presse. De quoi partent les artistes ? D'une petite graine qui germe, qu'on présente ici. Et une fois qu'on voit ce champ de blé, qu'est-ce qu'on fait après tout ça après ? Et voilà, c'est un peu le projet.
Salut Manuela.
Salut.
Qu'est-ce que tu fais actuellement ?
Là, actuellement, j'intègre toutes les commandes sur le logiciel de caisse.
Il y a pas mal de monde aujourd'hui, j'ai l'impression.
Pas mal de monde, ouais. Donc, j'ai alterné un petit peu entre le renseignement auprès des clients sur tous les articles qu'on vend, notamment les créations locales.
Et t'es aussi une des créatrices, je crois.
Oui, tout à fait. Je fais des bougies parfumées avec de la cire végétale et des parfums fabriqués à Grasse, sans substance CMR ni phtalate.
Et ça, c'est la pièce d'à côté, je crois, Timothée.
Absolument. Et juste après, on arrive dans ce qu'on peut appeler la boutique de créateurs-créatrices. Donc, qui est somme toute une boutique de créateurs comme on en voit assez régulièrement. Donc, on a Aliénor Ouvrard, Nina Faustine, le collectif Bigarure, Rafa Dessine, donc Brume et Brindy, donc les créations de Manuela, Stéphanie Bouvier pour la céramique et Annaëlle Blaillot qui nous fait du design d'objets. Donc là, on est sur différents formats, en 3D, en 2D, de l'illustration, des céramiques, des bijoux, des bougies, des cartes. Enfin, voilà, il y a un petit peu de tout. Le projet initial, effectivement, c'est valorisation de la création locale. Donc on a pour ça, en fait, une partie boutique de créateurs-créatrices qui sont, en fait, un collectif d'artistes qui a, au-delà de la vente de ses œuvres, pour mission d'animer le lieu. Ils viennent tous et toutes du Maine-et-Loire et ils vont, en fait, proposer, pour découvrir, aller un peu plus loin dans leur univers que de simplement vendre leurs œuvres, animer le lieu, du coup, pardon, à travers des ateliers, des rencontres, etc.
Bah, je vais prendre ton prénom, s'il te plaît.
Louise. C'est un lieu qui est très cocooning, avec, je trouve, le mélange parfait entre café, découverte d'artistes aussi. Je trouve que c'est des lieux qui manquent à Angers un peu. Et ça reflète quelque chose de vraiment bienveillant. Et juste l'architecture du lieu aussi est super.
Moi, je me sens vraiment bien dans ce lieu. C'est la petite pièce friperie brocante, donc avec la brocante de gasoline qui est une brocante du Perche, et puis la friperie qui est par Blue Gatsby, qui est Maïla d'Angers, qui a monté cette marque il y a quelques temps à Angers. Et j'aime bien cet espace-là parce que, en fait, il donne sur une verrière qui avant était pas fermée, qui était pas couverte, donc on a des fenêtres. Et on a comme ça un truc qui est un peu troublé d'intérieur-extérieur que j'aime beaucoup.
Pour Timothée, Angers est l'écrin idéal est très favorable à l'existence de WIT.
Il y a un terreau hyper fertile pour ce genre d'initiative. Il y a des porteurs et porteuses de projets, des créateurs, des créatrices, des producteurs locaux, des productrices locales. Vraiment que je trouve absolument géniaux. Et voilà, j'ai vu l'opportunité en restant à Angers de monter tout ça dans le cadre en fait qui finalement me correspond parfaitement.
Avec la petite musique aussi.
Avec la petite musique effectivement partout. Donc là on est dans sous la verrière et qui donne sur cette grande salle au bout. Dans laquelle on va organiser, on organise d'ailleurs, les ateliers, les rencontres, les expositions, les concerts. Et cette grande salle donne donc sur le petit jardin aménagé par Anne Bourreau de la Rosée Sauvage.
Regardez. C'est magnifique.
C'était Pensée locale, un enjeu de société. Une émission de La Frappe, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire.
Un reportage de Pierre-Benoît Leclerc pour Radio G.
Vous écoutez l'AJT du local sur l'autre radio. Dans quelques instants, ce sera le moment de notre chronique juridique avec Maître Mignard. Mais avant ça, j'ai envie d'un peu d'amour, un peu de musique. Donc on écoute Félix Ziott, Avalanche. Vous écoutez l'agité du local sur l'autre radio, 107.9 à Château-Gontier et 101.7 à Laval. Et donc c'est le moment de notre chronique juridique avec Maître Mignard. Eh bien, c'est à vous.
Bonjour Marcotique. Salut mes chères araignées velues. Et oui, c'est bientôt Halloween, le jour préféré de Roselyne Bachelot, car c'est le seul jour où elle peut sortir sans masque. Tiens, pour vous, un petit problème mathématique pour commencer cette chronique. Une fois n'est pas coutume. Alors, vous passez devant un conteneur de recyclage de verre. Ce dimanche matin ont été déposés au pied de ce conteneur 8 packs de Pelfort Brune. Sachant que chaque pack peut contenir jusqu'à 16 bouteilles vides, pouvez-vous calculer combien de naissances non désirées auront lieu dans 9 mois? J'attends vos réponses sur le site de l'autre radio.
Et alors, si j'ai la réponse, je gagne quoi?
Désolée Margot, les personnes impliquées dans cette histoire mathématique ne peuvent pas participer. Au fait, Jordan pour un garçon, c'est pas mal, non? On en reparle en juin?
Très drôle. Alors ne vous attendez pas à être la marraine en tout cas. Quel est le sujet du jour?
Bon, pour fêter Halloween, j'ai décidé de vous parler d'un sujet horrifique. Le mariage. J'en ai froid dans le dos. Et plus précisément de la maxime « En mariage, trompe qui peut ». Moi, j'aurais plutôt dit « Sauf qui peut », mais ce n'est pas moi l'auteur de cette maxime, mais Antoine Loisel, qui devait être un super mari. Laisse tomber la tête de sa femme quand il lui disait « Tu sais, en mariage, trompe qui peut ». Bon, bah c'est pas tout, hein, mais je vais à la taverne avec des jouvenceaux. Hein. Ne t'inquiète pas, morte couille. En plus, le gars, il a mis genre 40 ans pour réunir 958 maximes dans un recueil juridique, dont le fameux « En mariage, trompe qui peut ». Sachant qu'il a eu 12 enfants, encore un qui devait stripoter les M&M's pendant que Madame Loisel faisait tout dans la baraque. Non, Margot, ne me demandez pas quel goût les M&M's. Vous attendrez le 31 octobre pour récolter vos IST. Vos bonbons. Et mettez-moi de côté ceux en forme de champignons, s'il vous plaît.
Oui, vous ne croyez pas que vous êtes assez dérangée comme ça, Maître Mignard?
Oui, c'est vrai, Margot. Sortez les violons. J'ai eu une enfance difficile, avec des parents horribles qui me donnaient de l'amour et de la sécurité, faisant de moi un être banal. Alors que j'aurais pu finir comme Loana. Quelle déception. Bref, revenons-en à l'adage « En mariage, trompe qui peut ». Cela signifie que l'on ne pourra reprocher à un époux d'avoir menti ou de laisser croire qu'il possédait des qualités qu'il n'avait pas. Sauf si ces qualités étaient déterminantes dans le consentement au mariage. Ah, le bonheur du mensonge par omission. Bah, voyons ma chérie, je ne t'ai pas menti. J'ai juste oublié de te dire que j'aimais forniquer avec des peluches à l'effigie de Peppa Pig. Vous remarquerez que ma mauvaise foi légendaire m'oblige à parler uniquement de l'époux et jamais de l'épouse. Eh bien, c'est parce qu'il est connu qu'une femme ne ment pas. De toute façon, aucun homme ne saurait le dire, puisque aucun homme n'écoute ce qu'on lui dit. Allez-y, traitez-moi de féministe, envoyez-moi les associations de lutte pour l'égalité des droits, jetez-moi des rues tabaga, déshabillez-moi, fouettez-moi avec des coups rouillés. Ah
Priscilla, qu'est-ce qui vous arrive?
Pardon Margot, j'étais en train de revivre mon rêve SM de la nuit dernière, celui que j'ai fait en compagnie de Michel Barnier. Dans mon rêve, pour se faire du bien, il faisait tomber sur son pied une grosse pierre sur laquelle il était écrit « Loi de finances pour le budget 2025 » en criant « Ah, comme ça, salope, comme ça !» Bon, si j'en reviens à la tromperie au sens large, elle peut être constitutive d'une annulation du mariage, mais uniquement si elle a pu vicier le consentement d'un époux, article 146 du Code civil. Je rappelle que le mariage est bien un acte de volonté. Il doit notamment s'exprimer à travers le consentement donné à la conclusion de cette union. Mais il n'y a annulation de mariage que si on peut prouver que sans ce mensonge, cette manœuvre ou cette omission, l'époux ou l'épouse n'aurait pas accepté de se marier. Petit aparté, jeunes auditeuristes, dois-je vous rappeler mon avis sur le mariage? C'est résoudre à deux les problèmes qu'on n'aurait pas eu seul, comme disait Sacha Guitry, alors qu'on serait beaucoup mieux à trois ou quatre ou cinq, comme disait moi. Regardez Margot, elle est parfaitement épanouie avec son équipe de foot. Football américain, je précise, 53 joueurs contre 11 seulement pour le foot européen. Quelle gourmande!
C'est vrai, fallait pas le dire.
Et puis, quitte à me marier, moi j'adopterais le système polygame mormon. Un mari pour faire le ménage, un mari pour s'occuper des enfants, un mari pour travailler, un mari pour la charge mentale. Bon, bah, je crois que j'aurais plus vite fait de me marier avec une femme. Hein. Pour en revenir à l'annulation de mariage, celle-ci est désormais très dure à obtenir. D'autant qu'en pratique, il est difficile de distinguer de simples manœuvres de séduction de manœuvres visant à vicier le consentement. Ah, le vice, c'est toute ma vie. La procédure naturelle pour mettre fin au mariage reste le divorce ou le brûlage au fond des bois. C'est vrai que d'admettre trop facilement une annulation reviendrait à admettre une forme de répudiation, ce qui n'est admissible que concernant Ariel Dombasle, mais aussi concernant Bernard-Henri Lévy. Bon, bah du coup, ils vont bien ensemble. Hein. Dans le cas particulier du mariage, seuls deux vices sont reconnus juridiquement, l'erreur et la violence. La violence, donc, exite les mariages forcés, pléonasme. Et pour l'erreur, c'est l'article 180 du Code civil qui dispose que s'il y a eu erreur dans la personne ou sur des qualités essentielles de la personne, l'autre époux peut demander la nullité du mariage. Donc, si vous pensez épouser votre père alors que vous vouliez vous marier avec votre sœur, vous pouvez demander l'annulation du mariage. Normal, vous n'allez pas vous taper un vieux non plus.
Ah mince, je vais devoir annuler ma cérémonie alors.
Oui, parfois Margot, on ferait aussi bien de marier avec son vibromasseur. De même, si votre futur compagnon d'infortune vous dit qu'il est acteur, qu'il a un casier judiciaire vierge comme Johan Rioux et une fortune personnelle, alors qu'en fait il anime des anniversaires au McDo, qu'il a 38 mentions pour exhibitionnisme devant l'enclos des orangs-outans au refuge de l'Arche et que sa fortune c'est une collection de VHS de la roue de la fortune, on peut considérer qu'il y a tromperie sur ses qualités substantielles. Et que vous n'êtes pas très observatrice ou observateur non plus. Pour conclure, quitte à être trompé, abusé et vicié, ne vous mariez pas, mais inscrivez-vous sur une liste électorale. Je vous aurais prévenu.
Merci beaucoup Priscilla, merci beaucoup pour ce moment. Voilà, l'AJT du local s'arrête ici. Merci à Anne-Marie Bourget de l'association Les Trois Mondes d'avoir été avec nous. Encore merci à Priscilla. On parlait d'étonnement au début de cette émission. Eh bien, je crois que Priscilla, chaque semaine, enfin toutes les deux semaines, nous apporte cet étonnement et ce sourire qui nous manque parfois. On s'arrête ici, mais évidemment, ça continue sur les ondes de l'autre radio. Votre soirée commence à 19h avec l'émission Gold Soul Theory, animée par Yoko et Mout. Ensuite, on continue avec All Blues. Et pour Octobre Rose, Bruno a préparé une émission de 3h, 100% artistes féminines. Et ça commence bien sûr à 21h. Moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission de l'AJT du local. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de cette terre, prenez soin de ceux qui vous entourent. Enfin, faites comme vous pouvez, mais s'il vous plaît, faites-le bien.
Bon, bah, c'est fini.
Tout de même, ça passe vite.